Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. RFI vous donne la parole comme tous les matins pour commenter l'actualité. Et tout à l'heure, nous parlerons de la prochaine élection présidentielle en Guinée. Et nous lancerons le débat sur cette alliance pour le moins surprenante. Seloud Alain Diallo, le chef de file de l'opposition, vient de se rapprocher de Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte. Les deux ennemis d'hier sont désormais des alliés politiques. Pourtant, rappelez-vous, l'opposant a longtemps accusé l'ancien capitaine d'être responsable du massacre en 2009 d'au moins 157 personnes qui s'étaient rassemblées pacifiquement dans un stade à Conakry. Ce jour-là d'ailleurs, Seloud Alain Diallo, l'opposant, était dans ce stade avec ses militants. Il avait été roué de coups. En tout cas, 6 ans après les faits, les deux hommes veulent travailler ensemble. Ils veulent remporter l'élection du mois d'octobre. Alors sur un plan moral, que vous inspire cette alliance? Comment, quelles peuvent être les conséquences politiques d'un tel rapprochement? Vous êtes nombreux, plusieurs centaines de commentaires déjà postés sur la page Facebook de l'émission. Plus de 700. J'en lirai évidemment tout à l'heure quelques-uns pour alimenter le débat. On vous attend désormais au standard au 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. D'abord, vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous quotidien, rendez-vous privilégié, on peut le dire, avec les journalistes d'RFI, nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Vos questions pour mieux décrypter tous les sujets que nous abordons dans nos journaux. Et la première question nous vient de Kinshasa. Nous sommes donc en République démocratique du Congo. Bonjour Dédi.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Merci de nous avoir appelé. Vous avez des questions sur la démission récente du gouvernement palestinien?
En effet, Juan, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé la démission du gouvernement d'Union nationale la semaine dernière.
Oui.
Quels sont les désaccords qui existent entre le Fatah et Hamas à ce sujet?
Alors, bonne question, question simple mais pertinente. C'est vrai que ce gouvernement d'union qui était censé sceller la réconciliation entre le Hamas et le Fatah a implosé. Muriel Paradon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante d'RFI à Jérusalem. Il y a eu gouvernement d'union nationale pendant un peu plus d'un an. Le problème, c'est que malgré ce gouvernement, les divisions n'ont jamais cessé entre les frères ennemis palestiniens.
Oui, c'est vrai. Les divisions n'ont jamais cessé, elles ont toujours été très importantes. Excusez-moi, je vous entends pas très bien.
Alors on va essayer de régler ça. Il y a un problème technique, on va régler ça évidemment dans un instant. On est en train de rétablir le réseau entre Paris et Jérusalem pour avoir Muriel Paradon en direct qui va nous expliquer les raisons de la démission du gouvernement d'Union nationale. En tout cas, les consultations se poursuivent
oui, c'est
en
bon,
ce
c'est
moment.
Bon, j'ai pas entendu la question en fait.
Ah, vous n'avez pas entendu la question. L'auditeur voulait savoir quelles étaient les raisons qui ont poussé ce gouvernement d'Union nationale à la démission.
Alors, il y a eu plusieurs raisons. Alors, il y a des divisions profondes, comme vous le disiez. Il y a eu un accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas il y a un an, mais les divisions entre les deux mouvements sont restées très importantes, notamment parce que le Hamas a, semble-t-il, vouloir garder le pouvoir à Gaza. En tout cas, c'est ce que dit le Fatah. Et le Hamas, de son côté, accuse le Fatah de ne rien vouloir faire pour Gaza, notamment de ne pas payer les fonctions du Hamas et aussi de ne pas assez s'occuper de la reconstruction après la guerre. Ça, c'est les accusations portées sous le gouvernement qui est chapeauté par Mahmoud Abbas. Et puis, le moment auquel est arrivée la dissolution du gouvernement est assez particulier. Il est arrivé au moment où on apprenait que des discussions secrètes entre le Hamas et Israël avaient peut-être lieu. Elles ont été plus ou moins confirmées. Et effectivement, ça a beaucoup embêté l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Parce que ça entérine le fait qu'il y a en fait deux pouvoirs distincts palestiniens, un à Gaza avec le Hamas et l'autre en Cisjordanie avec le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas. Discussions secrètes et indirectes entre le Hamas et Israël pour consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis la fin de la guerre l'an dernier, et discussions aussi pour alléger le blocus sur Gaza. Pour l'instant, on n'a pas de résultats sur ces éventuelles discussions, mais le gouvernement, lui, de consensus, a bel et bien démissionné.
Oui, les consultations sont en cours en vue de former un nouveau gouvernement. On sait que le précédent gouvernement d'union nationale était composé de technocrates. Est-ce que le nouveau sera davantage politique? Sait-on si le nouveau comptera des membres du Hamas dans l'équipe ou pas?
Alors c'est la grande interrogation. Il y a eu depuis quelques jours des réunions à Ramallah pour essayer de parler de ce nouveau gouvernement, et c'est le flou le plus total. Soit il y a deux choix, hein. Soit on refait un petit peu la même chose avec un gouvernement de technocrates, soit on a un gouvernement plus politique avec des membres du Hamas et du Fatah dedans. C'est ce que réclame le Hamas. Mais le problème, c'est que s'il y a des membres du Hamas dans ce nouveau gouvernement, la communauté internationale, la France, les États-Unis, qui ne reconnaissent pas le Hamas, hein, qui estiment que c'est un mouvement terroriste et qui ne veulent pas discuter avec lui, eh bien, ne pourraient pas discuter avec ce nouveau gouvernement. Donc, Mahmoud Abbas, le président palestinien, est très embêté pour la formation de ce gouvernement. Donc, en attendant, les discussions se poursuivent et pour l'instant, eh bien, il n'y a plus vraiment de gouvernement actuellement palestinien.
Ouais, en tout cas, on va suivre avec vous l'évolution de la situation et la formation de ce nouveau gouvernement. Muriel Parado, en direct de Jérusalem, merci d'avoir été avec nous. Merci à Dédi, à qui on souhaite une belle journée. À Kinshasa, 10h17 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction. Richard nous appelle du Togo. Bonjour Richard.
Bonjour, RFI.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions sur les Philippines?
Oui, en effet, on a vu dernièrement, je crois, en mi-juin, la rébellion musulmane rendre les armes dans le sens à favoriser la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2014. Mm-hmm. Et là, j'ai deux questions. Ma première question, c'est de savoir la chance de réussite de cet accord, sachant qu'il existe bien d'autres groupes armés rebelles qui opèrent sur l'île. Et est-ce que ces derniers sont vraiment pris en compte dans l'accord de paix?
Ouais, en tout cas, on voit déjà, Richard, question, que vous suivez vraiment l'actualité aux Philippines, et merci à vous. Et on la suit grâce au service international d'RFI. Juliette Garbrand, bonjour.
Bonjour.
La rébellion dont parle Richard s'appelle le MILF, hein, le Front Moro-Islamique de Libération. C'est le plus important mouvement de la rébellion musulmane aux Philippines. Ça fait 40 ans que cette rébellion se bat pour que la minorité musulmane du pays obtienne son autonomie. Et effectivement, comme le rappelait Richard, dans un geste symbolique, ces rebelles ont déposé des armes.
Oui, et ce geste, c'est déjà en soi une raison d'être optimiste sur la viabilité de l'accord de paix. C'est la première fois qu'un groupe armé accepte de remettre des armes, même s'il s'agit d'une toute petite partie de l'arsenal des rebelles, hein, 75 armes seulement, mais des armes lourdes comme des mortiers. Et encore plus important, le retour à la vie civile de 145 soldats. La façon dont ça va se passer sera importante pour la suite.
Ouais, alors pourquoi ce geste maintenant? Richard disait qu'il y a eu un accord de paix qui a été signé il y a plus d'un an.
Oui, en mars 2014. Alors maintenant, il faut que le Parlement adopte la loi qui va créer la région autonome du Bangsa Moro. Or, les parlementaires ont suspendu leur débat après que 44 soldats ont trouvé la mort en janvier dans la province de Maguindanao, donc au sud, dans cette région, dans une opération qui visait des terroristes islamistes, dont l'un des plus recherchés par le FBI américain. Donc, avec ce geste, il s'agissait de relancer la machine. Alors, pour répondre à Richard, il y a plusieurs facteurs qui jouent dans la mise en œuvre de l'accord et de l'adoption de la loi. D'abord, au niveau national, il faut convaincre les députés, les responsables de l'opposition, qui considèrent que l'État va trop loin dans l'autonomie accordée, ou qui doutent de la sincérité des rebelles, de la conformité de la loi à la Constitution. Certains d'entre eux, d'ailleurs, parce qu'ils sont déjà un petit peu en campagne, le président Benigno Aquino est en fin de mandat, il ne peut pas se représenter. Mais Aquino, justement, suscite moins d'opposition que ses prédécesseurs, estime David Camerou de Sciences Po, et il a plus de chances d'y arriver, de faire passer les choses. Le règlement de ce conflit, c'est d'ailleurs la priorité de son mandat. Il va tout faire pour y parvenir d'ici aux élections qui sont prévues au printemps 2016.
Ouais, c'est la priorité du président. En même temps, on peut le dire, la population en a ras-le-bol de cette situation, de cette guerre civile qui dure depuis 40 ans, qui a fait quand même plus de 150 000 morts.
Oui, d'autant plus depuis que le cyclone Ayan a dévasté une large partie des Philippines, le pays dans une situation économique terrible. Et le sentiment qui domine la population, c'est qu'il n'y a plus de ressources ni de vie à gâcher et qu'il faut mettre de l'ordre dans le pays. Alors sur le terrain maintenant, comme le souligne Richard à juste titre, il y a d'autres groupes armés que le MILF, hein, le Front Moro, et ces groupes ne sont pas inclus dans l'accord. Le premier d'entre eux, c'est le Front Moro de Libération Nationale. Mais il a tout autant intérêt à la paix, d'abord pour des raisons économiques, parce qu'il faut rappeler que cette région du sud des Philippines, elle est très riche en ressources naturelles, et qu'une région pacifiée, ça permettra de mieux les exploiter, et ça profitera à toutes les parties, une fois que la redistribution sera mise en place, on va y revenir. Puis les rebelles ne sont pas populaires, les gens en ont marre, vous le disiez.
Ouais. D'autant que ce n'est pas la première fois, Juliette, qu'il y a une tentative d'autonomie, un accord avait déjà été signé de mémoire, je crois que c'était en 96, mais sur le terrain, on voit bien qu'il y a quand même des groupes extrémistes armés qui peuvent à tout moment faire échouer ce processus de paix.
Oui, notamment le groupe Abu Sayyaf, on s'en souvient, un groupe très violent impliqué dans de nombreux enlèvements. Ce groupe extrémiste s'est encore plus marginalisé récemment en prêtant allégeance à l'organisation État islamique. Mais il est considéré plus comme un groupe criminel que comme un groupe politique. Et justement, pour finir de répondre à Richard, le vrai danger pour ces accords de paix et la transition, c'est l'omniprésence des armes, de la violence et de la criminalité de groupuscules de bandits dans la région. Et puis, dans une moindre mesure, les nombreuses rivalités et luttes de pouvoir internes au sein des mouvements.
Allez, Richard, vous avez une autre question, il me semble.
Oui, merci. Ma dernière question, c'est de voir quelle va finalement être... le statut de la région autonome du sud des Philippines par rapport au reste du pays.
Ah, comment s'appelle déjà cette région, Juliette ?
Alors, le Bang Samoro.
Attends, et c'est une région donc qui est au sud de l'archipel des Philippines.
C'est le sud de l'archipel, ce sera environ 10% de l'archipel. Ça comprendra 5 provinces situées sur et autour de la grande île de Mindanao. Mais il va y avoir des référendums dans les régions limitrophes pour savoir si les gens veulent en faire partie ou pas. Donc, le Bang Samoro aura son propre parlement qui nommera un ministre en chef. Il aura son gouvernement, il bénéficiera d'une autonomie fiscale et il percevra, je le disais, une bonne part des revenus de l'exploitation des ressources naturelles, la moitié des revenus des énergies fossiles et de l'uranium, 75% des revenus des minerais métallifères, ça c'est la question clé. Puis la région aura son propre système judiciaire avec un tribunal religieux, mais uniquement pour les affaires civiles des musulmans, parce que le Bang Samoro reste sous l'autorité de la Cour suprême philippine et Manille conserve les habituelles prérogatives nationales, défense, affaires étrangères, monnaie et citoyenneté.
Voilà, et on rappelle que cette région est majoritairement musulmane, dans un pays qui est quand même essentiellement catholique, d'où la volonté des musulmans du sud des Philippines d'avoir leur propre autonomie, leur propre région et gérer leurs propres affaires.
Oui, c'est une question qui remonte à la colonisation.
C'est passionnant. Merci beaucoup, Richard, de nous avoir appelé. Merci à Juliette Garbrand, évidemment, d'être passée dans ce studio. Avant de repasser au standard, je vous informe que lundi prochain, journée spéciale sur RFI consacrée aux chiites et aux sunnites, quand on vous parle dans nos différents journaux de la situation en Irak, en Syrie, au Yémen, en Iran, en Arabie Saoudite, au Liban et même à Bahreïn, eh bien, il est impossible de ne pas mentionner cette rivalité régionale entre chiites et sunnites. RFI va donc vous proposer de nombreux rendez-vous pour mieux comprendre justement les origines de cette rivalité, les enjeux de cette opposition et pour l'occasion, nous répondrons à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, toutes vos questions, même les plus simples, nous intéressent. On est là justement pour vous permettre de mieux comprendre cette rivalité et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant, nous poser vos questions dès maintenant au standard au 33 9 693 693 70 et on mettra juste après l'émission une annonce sur la page Facebook de l'émission. Vous pourrez là aussi poser vos questions et nous envoyer vos commentaires. Jean-Jacques est avec nous, il nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On va tendre l'oreille, le réseau téléphone n'est pas très bon avec l'Est de la RDC. Vous avez des questions concernant l'arrivée de la TNT, la télévision numérique terrestre, dans votre pays, la République démocratique du Congo.
Oui, en effet, je voulais savoir quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour que tout le monde accède à la TNT, à la télévision numérique, compte tenu des conditions socio-économiques de notre pays.
Ouais, c'est vrai que le pays a basculé récemment vers la TNT. Bonjour Léa-Lisa Vesteroff.
Bonjour Juan, bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes la correspondante permanente d'RFI à Kinshasa. C'est un grand changement pour les téléspectateurs congolais qui vont devoir s'adapter à cette nouvelle technologie. Quelles sont donc les dispositions prises pour faciliter le passage à la TNT ?
Bon, ce qu'il faut savoir d'abord, pour rassurer les téléspectateurs, c'est que le basculement vers le numérique va se faire étape par étape. Pour le moment, seule la ville de Kinshasa, en fait, est concernée par ce passage au numérique. Trois émetteurs de 1200 watts ont été installés pour couvrir l'ensemble de Kinshasa. Donc, dans la capitale, toute personne équipée déjà d'un décodeur, même avec un téléviseur analogique d'ailleurs, peut déjà capter ce nouveau signal numérique. Mais le signal analogique est conservé et en parallèle hein, jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour le moment, jusqu'à fin 2015, le système fonctionne comme avant. Les téléviseurs analogiques fonctionnent comme avant en parallèle. Alors, la prochaine étape, justement, Jean-Jacques, ça sera Lubumbashi, a priori, la capitale économique hein, dans l'est du pays. Les autorités ont promis que la ville passera au numérique d'ici 3 semaines, voire un mois. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Communication, Lambert Mende. Mais même système, hein, analogique et numérique en parallèle. Viendront ensuite les 9 villes frontalières de République démocratique du Congo. Donc, j'en cite quelques-unes. Goma, près du Rwanda. Zongo, à côté de la Centrafrique. Ou encore Mwanda, à côté de l'Angola. Elles basculeront dans les 6 mois. Et enfin, les 53 centres d'émission hein, qui existent dans tout le pays devraient basculer vers le numérique d'ici la fin de l'année 2015, le temps que les autorités s'équipent. Mais, et comme je le disais, c'est une précision importante, hein, la principale disposition prise par les autorités pour laisser le temps finalement à tous les téléspectateurs de s'adapter à cette nouvelle mesure, c'est qu'il a été décidé de garder le système analogique tel qu'il existait, qui fonctionne en même temps que ce nouveau système jusqu'à la fin de l'année 2015, donc jusqu'au 1er janvier 2016. Les 2 signaux seront maintenus pour laisser le temps à tout le monde de s'adapter et surtout de s'équiper, parce qu'en effet, c'est ça, hein, la principale inquiétude des Congolais, c'est le coût que va représenter ce nouvel équipement pour pouvoir capter ce signal numérique. Alors, avec soit un téléviseur numérique équipé d'une antenne de réception compatible TNT ou un décodeur, des coûts qui risquent en effet d'être difficiles à assumer pour une bonne partie de la population, puisque les téléviseurs numériques, vous le savez, sont plus chers que le téléviseur analogique et que par ailleurs, il va falloir s'abonner pour pouvoir capter les chaînes privées notamment. Donc voilà, en effet, un grand changement pour les Congolais et certains regrettent en effet que cette annonce soit faite un peu rapidement puisque c'est en avril que les autorités ont annoncé qu'elles basculeraient vers le numérique le 17 juin, comme ça a été demandé par Genève.
En tout cas, une date à retenir, le 1er janvier 2016, le signal analogique sera donc définitivement coupé. D'autres pays africains ont fait le grand saut hein, récemment dans la TNT, on peut citer le Mozambique, Maurice, la Tanzanie, le Rwanda. D'autres sont un peu en retard, hein, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore le Maroc. Merci beaucoup Léa Lisa Vesteroff. René nous rejoint, il est à Yaoundé. Bonjour René.
Bonjour Juan.
Vous avez une
question. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Une question sur la croissance en France.
Oui, tout à fait. J'ai suivi les statistiques publiées par l'INSEE sur la croissance économique de la France qui sont légèrement au-dessus des prévisions. Je voudrais savoir quelles sont les réformes ou les politiques qui ont été mises en place qui peuvent expliquer ces résultats.
Ouais, comment expliquer cette reprise de la croissance en France ? Bonjour Vladimir Passeron.
Bonjour.
Vous êtes le chef du département de la conjoncture à l'INSEE. C'est vrai que vos estimations sont supérieures à celles du gouvernement. Vous vous tablez sur 1,2 de croissance alors que le gouvernement lui parle d'1%. Comment vous expliquez cette, alors je ne sais pas s'il faut dire reprise ou en tout cas ce frémissement ?
Oui, on peut parler d'embellie. On a constaté au premier trimestre une hausse assez sensible du PIB, hein, plus 0,6% au premier trimestre. Et ce que nous disons dans la dernière note de conjoncture qui vient d'être publiée, c'est que pour les prochains trimestres, on n'aura pas autant, mais on s'attend quand même à avoir un rythme de croissance qui serait supérieur en termes de prévision à ce qu'on a connu sur les 3 dernières années. On s'attend à plus 0,3% au deuxième, au troisième, puis plus 0,4% au quatrième trimestre.
Mais c'est dû à la politique du gouvernement ou pas ?
Alors, d'où vient cette embellie ? On a eu d'abord 2 chocs exogènes. On a eu la baisse du prix du pétrole hein, qui vient alimenter le pouvoir d'achat des ménages et notamment on a eu une très forte consommation au premier trimestre. On a également la dépréciation de l'euro qui contribue favorablement aux exportations. On estime que ces 2 chocs exogènes contribuent pour environ la moitié de la croissance qu'on attend. On attend un rythme de croissance d'ici la fin de l'année de l'ordre de 1,6% hein, fin 2015 par rapport à fin 2014 et on s'attend à ce que ça soit ces 2 chocs exogènes contribuent pour environ la moitié. Mais par ailleurs, il y a également un autre choc qui est arrivé en début d'année et qui a touché la comptabilité des entreprises puisque leur taux de marge s'est nettement redressé. Et si une partie provient de la baisse du coût du pétrole, eh bien, on sait aussi que c'est lié à la mise en place du CICE, du pacte de responsabilité. Donc, ils sont 2 politiques mises en œuvre pour restaurer la situation financière des entreprises.
D'accord. Donc, c'est un mélange de la politique du gouvernement et de facteurs qui n'ont rien à voir, à savoir la baisse du prix du pétrole et la baisse de l'euro. Merci beaucoup d'avoir été bref, Vladimir Passeron.